Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, une épopée métisse, c'est notre 12e épisode. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce chapitre de Carrefour des Amériques qui emprunte son titre au beau livre de l'écrivain italo-franco-brésilien Mario Carelli, publié en France en 1987. Dans cette étude sur l'identité et la culture brésilienne, il raconte cette épopée métisse que les écrivains ont réhabilitée dès 1920 au Brésil et que les hommes politiques reconnaîtront plus officiellement dans les années 1930. En 1934, le pays célèbre en juillet sa nouvelle constitution, et lors du carnaval qui suit en février 1935, l'ambiance est plus que jamais à la fête. Ce qui n'empêche pas ce carnaval de rendre un émouvant hommage à une grande dame de la musique populaire, Francisca Gonzaga, qui vient de décéder à l'âge de 88 ans et que tout le monde appelle affectueusement Chiquinha. Elle fait partie, elle aussi, de cette épopée métisse. Son père était un militaire issu d'une famille aristocratique à l'époque de l'Empire et sa mère la fille d'une esclave noire. Elle est devenue un véritable mythe de la musique populaire. Femme courageuse, libre, Francisca Gonzaga a été de tous les combats contre l'esclavagisme, pour les droits des femmes, et elle a dû s'imposer comme artiste face à une bourgeoisie très conservatrice qui ne pouvait supporter qu'une femme compose des musiques pour les revues de théâtre et qu'elle écrive des machiches, les machiches qu'on disait contraires à toute décence. Le succès inouï de son machiche, Corta Jaca, qui est notre indicatif, était à la hauteur du scandale qu'il avait causé. Francisca Gonzaga est morte le 28 février 1935, la veille de ce carnaval pour lequel elle avait tellement composé. À ses côtés, l'homme de sa vie, qui avait 35 ans de moins qu'elle. Elle l'avait rencontré dans un club en 1899 où se réunissaient des musiciens amateurs. Elle avait alors 52 ans et lui 17. Et ils ne se sont plus jamais quittés. Antonio Adolfo au piano, Dino à la guitare et Jacques Morellenbaum au violoncelle dans ce Faceiro, le vaniteux, de Francisca Gonzaga. Ces années-là, le président Getúlio Vargas a fait de l'homme du peuple et surtout l'homme des régions déshéritées de l'intérieur du pays celui qui caractérise le mieux la nation brésilienne. Il sous-entendait par là que le métissage en est la composante essentielle. En 1936, à São Paulo, Mario de Andrade continue ses recherches en ce sens. Il vient de fonder, avec Claude Lévi-Strauss et son épouse, la Société brésilienne d'ethnographie et de folklore, qui réalise 3 congrès, consacrés notamment aux études afro-brésiliennes. Il intègre aussi les nombreuses archives sonores qu'il possède à la discothèque publique qu'il vient de fonder à São Paulo. En 1937 et en 1938, il organise 2 missions dirigées par son ami, le compositeur Camargo Guarnieri, qui participe à la première conférence afro-brésilienne de Bahia, où il assiste à une cérémonie de candomblé qui l'impressionne fortement. Il était ébloui par les beautés du Nord-Est et il a l'impression de partir à la découverte de son pays. Une samba très ancienne enregistrée en avril 1938 dans une ferme de l'état du Paraíba. Dans le nord-est du pays, Camargo Guarnieri effectue ainsi plusieurs enregistrements de groupes et de musiciens populaires dans tous les états traversés. De plus, il collecte des costumes de fête, des objets rituels, des instruments de musique. C'est ainsi que la discothèque de São Paulo pourra compter en 1940 sur la collaboration de la bibliothèque du Congrès à Washington. C'est à Belém do Pará, à l'embouchure du fleuve Amazone, que la mission a rencontré en juillet 1938 un étrange personnage, Satiro Ferreira, qui se disait pajé, c'est-à-dire un chaman. Il était réputé dans la région comme guérisseur. Il chantait devant les malades des mélopées rituelles dans une langue étrange faite surtout d'onomatopées, face à une petite table où il disposait des plumes d'oiseaux d'Amazonie et des cigares qu'il recouvrait d'écorce d'arbres.
Catu, Aruaia Maranhão Bujeré, esse catu catu, Aruaia Maranhão Bujeré, Acuã, Ariru, Acuã.
En 1933, Villa-Lobos avait aussi composé un chant de pagé pour les chorales qu'il fondait alors à travers tout le pays. Le président Getúlio Vargas lui avait même dit qu'il s'était reconnu dans ce chœur car il prétendait être lui aussi un pagé, un chaman. Curieusement, peu à peu au sein de ce gouvernement devenu très dictatorial, l'idée d'affirmer officiellement que le Brésil est un pays métis avait conquis les esprits. En 1938, Vargas s'est même rapproché de la communauté noire. C'est une célèbre mère des saints, la noire Maya Ninha, prêtresse de rituels afro-brésiliens, qui a convaincu Vargas d'abolir l'interdiction des candomblés. Plusieurs ouvrages publiés au Brésil analysent depuis les années 20 le mixage des populations qui ont formé le pays. Notamment en 1928, ceux de Paulo Prado, l'ami de Blaise Sandrard, Portrait du Brésil et Paulística, l'histoire de São Paulo. José Augusto Calil, professeur à l'université de São Paulo, nous explique la première colonisation portugaise et les premiers métissages.
São Paulo était une civilisation autochtone. La langue qu'on parlait ici, c'est pas la langue portugaise, c'était la langue des Indiens. Parce que le portugais ont envoyé au Brésil sur le temps des hommes, pas de femmes. C'est pas une colonisation de façon américaine, avec une société qui migre avec ses valeurs. Alors ces hommes-là, à São Paulo, ils ont trouvé des femmes indigènes. Et ils parlaient la langue indienne. Une langue générale, on disait, parce qu'il y avait des tribus différentes qui s'appellent Nyangatu. Dans ces moments-là, avant le 16e siècle, le projet de métissage était déjà, c'est le métissage entre les blancs et les indiens, et après avec le nègre. Alors le Brésil métis, c'est un Brésil qui commence dès le début.
La pianiste brésilienne Sonia Rubinsky interprétait la danse de l'Indien blanc que Villa-Lobos avait composé vers 1936 alors qu'il venait d'achever son cycle de chansons indigènes. L'Indien blanc, c'était le nom qu'il se donnait souvent, une manière d'affirmer son propre héritage métissé. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, plusieurs romans indianistes ont été écrits en Amérique latine, entre autres au Mexique, à Cuba et en Argentine, tous très influencés par les récits de la période américaine de Chateaubriand, comme Atala ou les Natchez. Et dans chaque pays, ces œuvres, qui s'achèvent souvent tragiquement, ont inspiré plusieurs opéras. Au Brésil, le roman le plus célèbre, c'est « O Guarani », l'Indien Guarani, de José de Alencar, publié en 1865. 5 ans plus tard, l'Italien Scalvini en tire un livret pour le compositeur brésilien Carlos Gomes, qui vivait alors à Milan. Son opéra « Il Guarani » est créé en 1870 dans cette ville et à Rio de Janeiro, puis en portugais en 1935 au Brésil. Il compte l'histoire des amours de Cecilia, la fille d'un colon portugais, et du cacique indien Peri, qui lui a un jour sauvé la vie. Le colon, Don Antonio, vit entouré d'ennemis, aventuriers, mercenaires venus du Portugal qu'il a malencontreusement accueilli dans son château. Cecilia et Peri sont bientôt violemment menacés à la fois par les Portugais et par les Indiens. Don Antonio décide alors de soutenir les amours des deux jeunes gens. Il les aide à s'échapper alors que le château est attaqué de toutes parts. Pour protéger leur fuite, il y met carrément le feu. Cecilia et Peri assistent du haut d'une colline au gigantesque incendie qui termine l'opéra et dans lequel meurt Don Antonio, qui s'est sacrifié pour eux.
Addio, addio.
Veronica Villarroel, Placido Domingo et Hai Jiang Tian, le chœur de l'opéra de Bonn, l'orchestre de la Beethovenhalle, dirigé par John Nächling, dans la scène finale du Guarani, l'opéra de Carlos Gomes. Dans les années 1930, cet opéra est représenté à Rio pratiquement à chaque saison lyrique. Carlos Gomez est un compositeur extrêmement populaire. Et le 24 octobre 1936, pour le centenaire de sa naissance, son œuvre lyrique Colombo, Christophe Colomb, est dirigée par Aitor Villa-Lobos au Théâtre Municipal. Créé à Rio en 1892, pour le quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique, il n'avait eu aucun succès. En 1936, Villa-Lobos relève le défi et c'est à une vraie création qu'on assiste. D'autant qu'il a mobilisé plusieurs chorales, dont celle qu'il avait fondée dans les écoles de la région, et que l'œuvre est mise en scène avec la participation du Ballet du Théâtre. Elle célèbre l'épopée du Génois, son départ d'Andalousie, le voyage des caravelles, l'arrivée dans les Caraïbes, la rencontre avec les indigènes et enfin le retour triomphal en Espagne. Rien de vraiment historique dans cette épopée lyrique. Et d'ailleurs, l'épisode le plus intéressant, confié à l'orchestre seul, c'est aussi le plus fantasque. Il s'agit du ballet que dansent ensemble les Espagnols et les indigènes sur l'île Caraïbe, qui pourrait bien être Cuba. Et dans cet oratorio très inspiré par Verdi, voici soudain une fantaisie à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Sur les pas de Francisca Gonzaga, qui avait été la première à utiliser une habanera cubaine dans une revue musicale brésilienne, Carlos Gomez inclut lui aussi, pour la première fois dans un opéra brésilien, une habanera qui évoque ici à la fois les Caraïbes et l'Espagne. Colombo de Carlos Gomez a été ici enregistré lors de la création en Europe. C'était à Catane, en Sicile, par l'orchestre des chœurs de la ville, dirigé par Silvio Barbato. En 1935, le français Fernand Braudel, historien renommé des civilisations de la Méditerranée, arrive au Brésil avec Claude Lévi-Strauss. Après son séjour, il dira souvent avec humour que ce pays n'a été finalement pour lui qu'un autre rivage méditerranéen au-delà de l'Atlantique. En août 1937, il découvre Bahia, la ville où la population noire est la plus importante au Brésil. À l'époque, écrit-il, quand on partait vers l'intérieur, on trouvait des foires, comme celles qui existaient, je dirais, il y a 150 ans. Des troupeaux sauvages, des musiciens aveugles, un peuple qui chante, un peuple qui danse. La misère, elle existe surtout dans le Nord, qui est la plus belle région du Brésil. Et c'est comme ça que je suis allé à Bahia. Quand tu te retrouves là-bas, tu ne peux pas ne pas comprendre. Devant une mosquée comme la mosquée d'Alger, je comprends les éléments, parce que c'est beaucoup de travail, du travail italien. Mais je ne comprends pas ce que c'est qu'une mosquée. Tandis que comprendre les églises de Bahia, c'est extrêmement facile. Le Brésil, c'est la même civilisation, mais pas au même âge. Et c'est vraiment le Brésil qui m'a permis d'arriver à une certaine conception de l'histoire que je n'aurais pas eue si j'étais resté autour de la Méditerranée.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Deux œuvres du compositeur brésilien d'origine italienne, Francisco Mignone, qui est de la même génération que Fernand Braudel et qui chante ces années-là ce Brésil métissé qui a tellement séduit l'historien français. Un chant à Babalu Ayé, le dieu guérisseur de la religion syncrétique afro-brésilienne, interprété par Alice Ribeiro et l'ensemble de José Siqueira. Puis un chant de Castille, pour Quatuor à cordes, que Francisco Mignone avait composé en 1932, en souvenir des deux années qu'il avait passées en Espagne. Au début des années 30, deux ouvrages sociologiques essentiels sont publiés au Brésil. Casa Grande e Senzala, la maison des maîtres et les baraques d'esclaves de Gilberto Freire, traduit en français sous le titre « Maître et esclaves ». Et Les racines du Brésil, de Sergio Buarque et Gio Holanda, qui évoque la colonisation du pays. Contrairement à ce qui s'est passé avec les Hollandais, écrit-il, les Portugais ont eu des contacts intimes et fréquents avec la population de couleur. Plus que tout autre peuple d'Europe, ils cédaient docilement au prestige communicatif des coutumes, du langage et des sectes des indigènes et des Noirs. Ils s'américanisaient ou ils s'africanisaient selon les besoins. On ajoutera au crédit des Portugais l'absence chez eux de tout orgueil de race. Le résultat, c'est que le métissage est devenu un élément incontestable de fixation au milieu tropical et il n'a pas constitué en Amérique portugaise un phénomène sporadique, mais bien au contraire, un procédé normal. Caterete, une danse d'origine amérindienne, composée par Francisco Mignone en 1930 et chantée ici par le Madrigal Ars Nova du Brésil, dirigé par Alberto Pinto Fonseca. Un enregistrement qu'on doit à la radio-télévision suisse. Dans les années 1930, la culture indigène est délaissée par les historiens au profit de la culture afro-brésilienne. José Augusto Calil.
Parce qu'après 1933, avec la publication du livre de Gilberto Freire, l'histoire brésilienne a tourné pour le noir. Jusqu'à 1933, c'était la question avec les Indiens et les Portugais. Qui parle des Indiens, ce sont des anthropologues, pas les historiens. Les historiens parlent de l'héritage nègre. Thank you.
La danse d'origine afro-brésilienne du jongo, composée par Lourenço Fernandes en 1938, c'était Clélia Irussun au piano. Dans les années 30, la ville de Bahia au Brésil, Bahia de tous les saints, Bahia la noire, est soudain sur le devant de la scène. Le compositeur de samba, Ari Barroso, originaire du Minas Gerais, la découvre en 1929 et il l'évoquera souvent dans ses chansons. Le jeune écrivain Jorge Amado, qui va devenir célèbre internationalement, la chante dans ses romans, notamment « Cacao » en 1933, qui se passe dans les plantations qui font la richesse de la région, et dans « Bahia de tous les saints » en 1935. Les musiciens de la ville sont aussi sous les feux des projecteurs, notamment Dorival Caymmi. Son grand succès en 1936, c'est celui où Luiz Barbosa chante avec Carmen Miranda, No Tabuleiro da Baiana. Les tabuleiros, ce sont les petits étals que tiennent encore aujourd'hui les baianaises toutes de blanc vêtues et coiffées d'un turban dans les rues de Bahia ou de Rio de Janeiro. Elles vendent au coin des rues des acarajés, ces beignets aux haricots, des quindins, des gâteaux à la noix de coco. C'est toute une liste de mets savoureux qu'égrène Carmen Miranda avec gourmandise. No tabuleiro da Baiana, tem vatapá, il y a du vatapá. Tem caruru, il y a du caruru à base de crevettes, de lait de noix de coco ou d'huile de palme.
Tabuleiro da Baiana tem
Vatapá, oi caruru, Mungunzá, oi tem umbu, ai oi oi.
Se eu pedir você me dá
Bidô.
O seu coração, seu amor, iaiá.
No coração da Baiana tem
Seu oi canjere e o céu oi canjere.
Pra você
Juro por Deus Pelo Senhor do Bom Fim Quero você Baianinha inteirinha pra mim
Sim, mas depois O que será de nós dois? Seu amor é teu vulgar enganador
Mentirada, mentirada, mentirada Tudo já fiz Fui até num canjerê Pra ser feliz Meus trapinhos juntei com você
Sim, mas depois vai ser mais uma ilusão E no amor quem governa o coração
No tabuleiro da Baiana tem
Vatapá, oi caruru, mungunzá, oi tenumbu, pra ioiô.
Se eu pedir você me dá, no seu coração também, seu amor, iaiá.
E no coração da baiana também tem.
Seduzão, oi canjere, ilusão, oi candomblé.
Pra você.
Dans les années 1930, le pianiste et compositeur Francisco Mignone écrit plusieurs œuvres inspirées par la culture afro-brésilienne, comme le Maracatu de Chico Rey pour orchestre en 1933. Le Maracatu dans le Nord-Est est un cortège afro-brésilien semi-religieux qui est chanté et dansé dans les rues. Francisco Mignone est né à São Paulo en 1897. Il est le fils d'un flûtiste italien tout juste arrivé au Brésil. À l'âge de 21 ans, il interprète le concerto de Grieg à Rio avant d'aller étudier à Milan et de passer ensuite 2 ans en Espagne. À São Paulo, il se lie d'amitié avec Mario Di Andrade et c'est avec lui qu'il compose ce ballet du Chico Rey. Chico Rey, c'est un grand héros brésilien. Arrivé comme esclave en 1740, il impressionne les propriétaires terriens par l'ascendant qu'il a sur ses camarades d'infortune. On l'appelle Chicou Rey, Chicou le roi. Il parvient bientôt à récupérer tellement d'or dans les mines, en cachette bien sûr, qu'il achète sa liberté, celle de son fils. Il est devenu un héros de légende et le symbole de la lutte des esclaves pour leur liberté. Le ballet de Francisco Mignone se déroule au XVIIIe siècle, durant la construction de l'église de Notre-Dame du Rosaire à Villa Rica, qui est le premier nom de la superbe ville baroque de Ouro Preto, capitale du Minas Gerais. Cette église était alors l'église des Noirs, et notamment des Noirs qui, grâce à leur richesse, avaient réussi à s'affranchir comme Chicou Rey. La danse du maracatu qui se déroule durant le ballet n'est pas une danse du Minas Gerais. Elle vient du nord-est du pays, mais les sources musicales auxquelles a puisé Francisco Mignone sont très diverses. Après l'ouverture et l'arrivée du cortège des chanteurs et danseurs du maracatu, voici la danse de Chicou Rey et de la reine Jinga, suivie de celle du prince Samba. L'orchestre et le chœur de l'État de São Paulo sont dirigés par John Nashling.
Thank you.
Après le maracatu que dirigeait ici John Nesling, quoi de mieux que le carnaval pour vivre en dansant le merveilleux métissage brésilien? En 1936, le grand succès au cinéma, c'est « Allo, allo, carnaval » d'Ademar Gonzaga, avec la fameuse chanson « As cantoras do rádio », les chanteuses de la radio qui passent bien sûr toute leur vie à chanter, avec Carmen Miranda, qui est devenue une superstar au Brésil.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum, 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 canto e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho para mim.
En 1936, la dérive dictatoriale du régime de Getúlio Vargas semble hélas irréversible. C'est dans ce climat de plus en plus délétère qu'Igor Stravinsky débarque à Rio au mois de juin pour diriger son oratorio Perséphone sur le texte d'André Gide qu'il vient de créer à Buenos Aires. Il est accompagné de son fils Sulima, qui est le pianiste de la première partie du concert, et de Victoria Ocampo, qui a été en Argentine la récitante de son œuvre, une écrivaine qui fait beaucoup pour la musique dans son pays et que la presse brésilienne encense régulièrement. Et le succès du concert à Rio lui doit beaucoup. Elle a été très applaudie par le public, comme le très valeureux chœur du théâtre municipal de Rio. Quant à Stravinsky, la violente polémique qu'il a déclenchée lors d'une interview en Argentine, durant laquelle il a pris fait et cause pour Mussolini en Italie et Franco en Espagne, a beaucoup choqué les Brésiliens démocrates.
Thank you.
Esa Pekka Salonen à la tête du chœur et de l'orchestre d'Helsinki dans le chœur Venez à nous, enfants des hommes, de Perséphone d'Igor Stravinsky sur le texte d'André Gide. Durant ces années, l'histoire de Chico Rey, le roi de la lutte des esclaves pour leur liberté au Brésil, a inspiré de belles poésies à Cecilia Meirelles et aussi des romans et des pièces de théâtre, jusqu'au film Chico Rey de Walter Lima, sorti en 1985, c'était à la fin de la dictature militaire. Le scénario s'inspire d'ailleurs de l'œuvre de la poétesse avec la participation pour la musique de Milton Nascimento, qui chante le Chico Rey que nosso rei sempre será, qui sera toujours notre roi, un souverain Chico Rey qui a participé grandement à l'épopée métisse du Brésil.
Nosso rei sempre será. Quem é rei sempre será, se seu reino está plantado no coração de seu povo. Chico rei, Chico rei, nosso rei.
C'est avec Milton Nascimento, le chanteur si populaire au Brésil encore aujourd'hui, que nous allons nous séparer pour nous retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet à la technique Claude Niort, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.